Après la défaite de l'armée française et la signature de l'armistice et la mise en place de l'État français, dont le président du Conseil est le maréchal Pétain et le vice-président du Conseil, Pierre Laval, vont s'engager toute une série de lois qui vont avoir pour objectif d'exclure les Juifs de la vie publique en France. Donc ce sont les lois d'octobre 1940. Donc on va, dans un certain nombre de cas, interdire aux Juifs d'exercer des fonctions publiques comme l'enseignement, comme bien évidemment la police, etc., etc. Jusque en 1940, l'idée d'une déportation n'est pas véritablement ancrée et il n'y a pas de signe, y compris pour la population juive, qui laisse envisager cette issue dramatique. Pour autant, ces mesures de rétorsion, comme la loi d'octobre 1940, vont avoir comme conséquence de priver la population juive de toute une série de moyens de subsistance. Parallèlement à cela, la France va voir arriver toute une série de populations juives qui viennent par exemple de Belgique, qui viennent des Pays-Bas, qui viennent d'Allemagne. Ils sont arrivés à des dates différentes pour fuir l'avancée du nazisme. Ces juifs étrangers vont avoir un sort tout à fait particulier. Et on a pu dire que le gouvernement de Vichy a essayé de protéger les juifs de nationalité française et qu'il a, au contraire, encouragé la déportation des juifs étrangers. Aujourd'hui, cette interprétation, protection des juifs français, déportation des juifs étrangers, est totalement remise en cause et on se rend bien compte que les juifs français ont aussi énormément souffert de cette politique de l'État français. En fait, les rafles ne vont commencer que à partir de 1941. Et la déportation ne va véritablement se mettre en place qu'à partir du mois de mars 1942. Le premier convoi, le convoi numéro 1, date du 27 mars 1942. Il va faire que un grand nombre de juifs qui avaient été raflés dans différentes occasions vont être déportés à ce moment-là vers les camps de la mort. Pour tenter une approche spatiale de la déportation des Juifs de France, en fait, nous nous sommes fondés sur les travaux de Serge Klarsfeld et sur le mémorial de la déportation où il a recensé plus de 78 000 personnes. Dans ce fichier, il y a à la fois des gens qui ont été déportés, des Juifs qui ont été déportés, il y a aussi à peu près 2 500 personnes qui sont mortes dans les camps en France avant d'être déportées. Et il y a également plus d'un millier de Juifs qui ont été tués, massacrés, principalement au cours de l'année 1944. Alors, ce phénomène de la déportation est véritablement très ample. Plus de 1 000 communes ont été concernées par la déportation des enfants. Et pratiquement 3 100 communes ont été concernées par la déportation des adultes. Donc, nous allons voir ce que donnent ces cartes par commune Et puis, ensuite, nous comparons celle des enfants et celle des adultes. La carte des enfants, Serge Klarsfeld définit comme enfants les juifs qui n'ont pas atteint 18 ans, porte donc sur plus d'un millier de communes. Et vous voyez que la plupart des communes des régions de France, il n'y a qu'un département qui est épargné, la Corse. Et on voit très bien comment les arrondissements de Paris, en particulier les arrondissements de l'Est et du Nord-Est, sont prédominants, en particulier le 11e arrondissement. Si l'on compare avec la carte des adultes, bien évidemment, là, le nombre de déportés est beaucoup plus important, à peu près 6 fois plus. Il y a eu 11 400 enfants déportés, il y a à peu près 65 000 adultes déportés. On voit que, en particulier à Paris, les zones de forte concentration de déportation, le 11e arrondissement, le 20e arrondissement, sont beaucoup plus prononcées que pour les enfants. On voit aussi une différence quand on compare. On disait que pour la Corse, il n'y avait pas eu de déportation d'enfants. Il y en a pour celle des adultes. Il y a eu un déporté depuis la Corse. Et puis surtout, on voit de nettes différences avec de très gros effectifs dans le sud de la France. En fait, ces très gros effectifs correspondent aux camps où des juifs ont été internés. Par exemple, dans le carré orange, le très gros point correspond au camp de Gurs, où énormément d'Allemands qui avaient été internés dans le camp de Gurs sont morts pendant l'hiver 40-41. Donc là, la comparaison de ces deux cartes nous apprend beaucoup de choses déjà sur la déportation. On voit aussi qu'il y a des zones où il y a énormément de déportés et d'autres où la déportation est plus moins marquée. Par exemple, l'Alsace-Moselle n'est pas véritablement marquée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de juifs d'Alsace qui ont été déportés, mais ils n'ont pas été déportés depuis l'Alsace. Cette carte, c'est la même carte que les deux précédentes, mais là, ce sont les territoires qui ont été cartographiés. On voit très bien, d'ailleurs, comment la carte souligne l'importance d'Arles, qui est la plus grande commune de France. Il n'y a pas eu énormément de déportés, mais le territoire concerné est très important. Et l'on voit que au sud de la zone de démarcation, eh bien, il y a énormément de communes qui ont été concernées. Pour comprendre l'ensemble, il faut comprendre et remettre dans le contexte. Lorsque il y a eu la déclaration de guerre en septembre 1939, l'Alsace-Moselle a été évacuée et une partie de la population a été ramenée vers les départements du sud-ouest, en particulier, par exemple, la population de Strasbourg a été réinstallée en Dordogne. On a la ligne de démarcation qui s'est établie après l'armistice du 22 juin. Et puis, on voit d'autres lignes sur cette carte. Il y a, d'une part, au nord de la ligne de démarcation, cette ligne en pointillé, qui est la Nordost-Ligne, qui est la zone dans laquelle les gens qui étaient partis au moment de l'exode, au moment de l'avance allemande, ne pouvaient pas revenir, qui passe au niveau de la Somme et des Ardennes pour redescendre jusque vers le Jura. On distingue aussi, mais c'est une ligne qui n'aura de réalité que bien plus tard, après le 11 novembre 1942, on distingue la ligne qui sépare la zone d'occupation italienne de la partie de la France qui est occupée par les Allemands après le 11 novembre 1942. Et cette zone italienne va avoir un rôle très important parce que pendant un temps, entre novembre 1942 et septembre 1943, elle va fonctionner comme une sorte de zone de refuge pour les Juifs. Mais ensuite, ce refuge va se transformer en véritable piège. Alors, avant d'entamer la lecture des convois, nous allons regarder un petit peu où étaient nés les déportés. Ce tableau présente les principaux résultats pour un certain nombre de villes qui sont emblématiques de certains types de déportés. Alors, par exemple, les natifs de Paris sont les plus nombreux, à peu près plus de 10 000 déportés sont nés à Paris. Ce sont souvent d'ailleurs des enfants, des gens de deuxième génération. Et on voit que tout de suite après, il y a les natifs de Varsovie qui sont pratiquement à 6 000. Et puis ensuite, on a des effectifs plus réduits, comme ceux, les natifs de Vienne ou de Constantinople ou de Salonique, qui vont renvoyer à des communautés particulières. Par exemple, pour les juifs de Salonique, ce qu'on appelle les judéo-espagnols, alors que on va voir aussi comment des gens sont venus, et ils sont venus très tardivement. Ces juifs sont venus très tardivement. Ceux qui venaient d'Anvers ou d'Amsterdam sont arrivés en France au moment de l'offensive allemande de mai 1940. Alors, ces villes emblématiques, on peut les coupler avec la succession des convois. Donc, en colonne, on a les convois, en ligne, on a les villes. Alors, comment se lit ce graphique? Il faut le lire ligne par ligne. Par exemple, les Parisiens sont surreprésentés dans le premier convoi, mais ils sont sous-représentés dans le deuxième, ils sont surreprésentés dans le troisième. Une fois qu'on a établi ces surreprésentations et ces sous-représentations des lieux de naissance par rapport à chaque convoi, on a placé un certain nombre de séparateurs et on a mis la date du dernier convoi qui correspondait à séparateur. Par exemple, les 16 premiers convois, le dernier convoi part le 7 août 1942 et on voit très bien que ce sont les natifs de Varsovie qui sont surreprésentés et très fortement surreprésentés dans ce convoi. Avec une exception, le convoi numéro 8 que nous observerons, parce que ce convoi-là n'est pas parti de Drancy comme les précédents, mais de la ville d'Angers. Puis on a les convois 17, 18, 19, où on voit qu'il s'agit de natifs de Francfort, de Berlin, de Vienne, qui sont particulièrement touchés par cette déportation. Là, il s'agit très souvent de juifs allemands qui ont été expulsés en octobre 1940 vers la France de Vichy. La France de Vichy les a enfermés dans des camps, par exemple à Gurs. Tout à l'heure, nous avons vu qu'au camp de Gurs, un grand nombre de ces juifs allemands étaient morts pendant l'hiver 40-41. Eh bien, en 1942, ces juifs allemands qui étaient enfermés au camp de Gurs ou au camp de Ressébédou, etc., nous verrons les cartes dans un instant, vont être déportés. Puis, ensuite, on a les convois, à partir du convoi 20, on a les convois qui concernent les arrestations suite à la grande rafle du Veldiv. Et on voit très très bien comment les Parisiens sont très surreprésentés parce qu'il y a énormément d'enfants qui sont nés à Paris et qui vont être déportés à ce moment-là. La phase suivante, il s'agit de gens, nous allons le voir sur la carte dans un instant, qui sont déportés depuis la zone non occupée, arrêtés donc en zone dite libre, et on voit que là, il n'y a pas de Parisiens, mais il y a principalement des gens natifs de Francfort, de Berlin, de Vienne, d'Anvers, qui s'étaient réfugiés dans la zone non occupée. Ensuite, les choses deviennent moins nettes, il y a moins de caractéristiques fortes, comme on l'a vu sur cette première phase, et nous allons le voir avec quelques convois qui correspondent à cette période. Alors là, pour comprendre un petit peu le fonctionnement, il s'agit des 7 premiers convois rassemblés, et on voit très bien que ces 7 premiers convois sont très homogène, déporte principalement des Parisiens, dont beaucoup sont nés en Pologne, et en particulier à Varsovie. Alors que les convois suivants, on voit qu'il s'agit de gens qui ont été arrêtés plutôt dans le sud de la France, au sud de la ligne de démarcation, suite à la grande rafle du 26 août 1942, organisée par la police de Vichy. Et on voit que le poids des Parisiens dans ce convoi est beaucoup plus faible que précédemment. On voit sur cette carte, à nouveau, un certain nombre de camps, comme celui de Gurs, comme celui de Rivesaltes, comme celui d'Émile, mais on voit aussi des grandes villes, comme par exemple Nice ou Marseille, qui apparaissent sur la carte. Alors, nous allons voir maintenant quelques convois, et le premier convoi qui part le 27 mars 1942, qui part à la fois de Compiègne, de Drancy, en direction d'Auschwitz, et qui est un convoi où il n'y a pratiquement pas d'enfants, et il s'agit principalement de Parisiens. Il n'y a pratiquement personne qui n'a été arrêté au sud de la ligne de démarcation. En même temps, les déportés qui sont arrêtés à Clermont-Ferrand, ils avaient une adresse à Clermont-Ferrand, il n'est pas certain qu'ils aient été arrêtés à Clermont-Ferrand, ils pouvaient tout à fait être au nord de la ligne de démarcation. Le convoi numéro 8, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est tout à fait caractéristique et qui est une sorte d'exception parmi les 16 premiers convois, puisque ces 16 premiers convois partent de Drancy principalement, certaines fois en prenant des déportés à Compiègne, mais là, il s'agit d'un convoi qui est parti d'Angers. Et ce convoi d'Angers a véritablement raflé des gens dans les départements qui dépendaient de la police CIPO-SD d'Angers, sans toutefois respecter un certain nombre d'accords qui avaient été passés entre la police nationale et les SS. En principe, à cette date-là, on ne devait pas déporter de juifs de nationalité française. Mais dans ce convoi du 20 juillet 1942, où les Parisiens sont très très peu nombreux, on le voit, eh bien là, le commandeur de la CIPO-SD d'Angers va demander que l'on arrête un certain nombre de Français. En fait, ce convoi aurait dû faire 1000, aurait dû avoir 1000 déportés, vous voyez qu'il y en a eu 814, et c'est une des obsessions des Allemands, réussir à remplir les convois, et souvent ils s'affranchissent des règles à ce moment-là pour atteindre les objectifs chiffrés. Alors voici l'un de ces convois, 17, 18, 19, là il s'agit du convoi 18, et vous voyez que ça n'a rien à voir avec le convoi numéro 1. Ce sont très souvent des Allemands qui ont été expulsés d'Allemagne et qui sont dans des camps du Sud. Le camp de Gurs, c'est le camp où il y a les effectifs les plus importants dans les Pyrénées-Atlantiques. On voit également les camps de Noé et Ressébédou en Haute-Garonne et le camp du Vernet dans l'Ariège. Convoi numéro 22, très caractéristique des convois 20 à 26, il s'agit de la déportation des raflés du Veldiv. Et dans ces convois, il y a énormément d'enfants. On le voit dans le convoi numéro 22, sur 993 déportés, il y a plus de 600 enfants. Nous verrons tout à l'heure un bas-relief sculpté à Beaune-la-Rolande et qui était destiné à Paul Bugachski, qui avait 4 ans à ce moment-là et qui va périr à Auschwitz. Eh bien, Paul Bugachski était avec sa mère dans ce convoi numéro 22. À partir du convoi numéro 26, il s'agit des convois qui vont déporter les raflés de la zone non occupée. Et on le voit très clairement quand on compare le convoi 22 et le convoi 26, la distribution spatiale n'a véritablement pas de comparaison. Voici un de ces convois qui résulte de des grandes rafles de la zone non occupée. Celui-ci, c'est le convoi numéro 30 du 9 septembre, mais les gens ont été arrêtés principalement lors de la grande rafle du 26 août. Et on voit là, par exemple, comment le Lot-et-Garonne, en particulier, on est complètement... toutes les communes du Lot-et-Garonne, grand nombre de communes du Lot-et-Garonne sont concernées, et on voit qu'il y a très peu de Parisiens dans ce convoi numéro 30. Un autre exemple, beaucoup plus tard, au mois de mars 1943, là, ce convoi numéro 51, on a changé complètement de contexte. La zone non occupée n'existe plus. Les Allemands, à partir du 11 novembre 1942, se sont installés dans le sud de la France, mais ils n'occupent pas les départements alpins qui sont tenus par l'armée italienne. Alors, on voit très nettement entre la partie ouest et la partie est du sud de la France, là, la différence, d'autant plus qu'il est fort possible ça a été vérifié, un certain nombre de Niçois qui figurent sur cette carte n'ont pas été arrêtés à Nice, mais avaient déjà été internés au camp de Rivesaltes auparavant. Le convoi suivant est très particulier. Alors, je ne vais pas revenir sur le fait qu'il y a relativement peu d'arrestations dans la zone italienne. Il y a des Parisiens, mais surtout, on voit très bien l'importance des arrestations à Marseille. En effet, au mois de janvier 1943, on a décidé, c'est Himmler lui-même qui a pris la décision, mais le secrétaire général de la police de Vichy, René Bousquet, participe aussi à cette opération, qui est l'opération, entre guillemets, de nettoyage des quartiers du Vieux-Port de Marseille. Et à l'occasion de ces rafles massives, de très nombreux juifs de Marseille, soit natifs de Marseille, soit natifs d'Afrique du Nord, vont être déportés ici vers Sobibor. Après le 8 septembre 1943, les troupes allemandes sont rentrées dans la zone italienne puisqu'il y a eu la signature de l'armistice entre le gouvernement Badoglio et les forces alliées. Et donc, le 8 septembre, les Allemands vont rentrer dans la zone italienne et on voit comment Nice et toute la région niçoise, mais pas seulement, va maintenant payer un très lourd tribut. Aloïs Brunner s'installe directement à Nice et va organiser la déportation massive des Juifs qui s'étaient réfugiés auparavant dans la zone italienne. Le convoi numéro 77 est le dernier grand convoi. On voit qu'il est, il concerne pratiquement toute la France. Ce convoi, d'ailleurs, aujourd'hui, donne lieu à tout un travail de mémoire qui est organisé par les descendants des déportés, qui s'appelle convoi77.org, où il y a des reconstitutions, et c'est véritablement quelque chose de tout à fait remarquable dans cette politique, dans cette attitude mémorielle. Au cours de l'année 1944, on est rentré véritablement dans une politique de traque. Et les Allemands, ainsi que leurs supplétifs, la milice, les collaborationnistes, vont chercher les Juifs qui se sont réfugiés un petit peu partout en France. Cette carte présente la répartition en 1944 des victimes directes de gens qui sont massacrés ou tués, fusillés, mais de manière très brutale, sommaire. Certains sont enterrés vivants. Et on a ici une carte particulièrement dure de la politique d'exaction à l'égard de la population juive, en particulier dans la région de Périgueux, en Dordogne, où il va y avoir énormément de victimes, qui sont les victimes de ce qu'on appelle la division Brémère, qui, entre la fin mars et la mi-avril, va brûler, massacrer énormément de populations, pas que des Juifs pour la division Brémère, il y a aussi des résistants. Ils vont incendier le Périgord. Autre région particulièrement touchée par ces exactions, à peu près au même moment et surtout un tout petit peu plus tard, au printemps 44 et jusqu'en juin-juillet, c'est la région de Lyon où sévit Klaus Barbie et où il va y avoir énormément de victimes. Parmi ces victimes, je l'ai indiqué d'un triangle au nord de Lyon, il y a Marc Bloch, l'historien Marc Bloch, qui est fusillé avec toute une série de résistants. Il était dans la prison Montluc, il a été extrait et fusillé sommairement. On voit ces exactions qui véritablement sont d'une brutalité absolue, qui vont en particulier dans le centre de la France être au mois de juillet avec ce qu'on appelle l'affaire des puits de Guéry, particulièrement violente, où les Allemands ne peuvent plus déporter vers Drancy, et donc ils vont jeter un certain nombre de victimes vivantes dans des puits. C'est véritablement l'horreur. Paris a été un des hauts lieux de la persécution. Et on voit sur cette carte l'importance de la persécution. Il y a 4 immeubles parisiens, on les voit très très bien sur la carte, où il y a eu plus d'une centaine d'arrestations et de déportations. Ces immeubles, il y en a un dans l'île Saint-Louis, il y en a 2 dans le 12e arrondissement et un dans le 10e. Et on voit très bien la géographie de cette persécution parisienne. Alors cette persécution parisienne, en fait, elle est d'une double nature. Il y a eu, d'une part, des arrestations de 1 ou 2 personnes par immeuble, par adresse, et ça, c'est généralisé. On le trouve partout, dans tous les arrondissements parisiens, et plus de 3000 des îlots parisiens, il y avait 5500 îlots, ont été concernés par cette persécution généralisée. Et puis, il y a une persécution beaucoup plus concentrée, où on a arrêté dans certains immeubles plus de 10 personnes dans le même immeuble, et on voit que la géographie n'est pas exactement la même. Elle est beaucoup plus concentrée dans le 4e arrondissement, dans le 3e arrondissement, dans le 11e arrondissement, qui est l'arrondissement qui a été le où il y a eu le plus de victimes, mais également le 20e, et on voit aussi entre le cimetière du Père-Lachaise et le parc des Buttes-Chaumont toute cette concentration d'arrestations massives. À partir de là, il a été possible de calculer la densité de déportation dans chaque îlot parisien. Donc sur cette carte sont représentés les îlots en gris clair où il y a moins de 10 déportés par hectare. Et c'est véritablement la totalité de l'espace parisien qui est concerné. Et puis, les zones où il y a plus de 80 déportés à l'hectare. Et on voit très bien comment cette zone se concentre entre le Père-Lachaise, le cimetière du Père-Lachaise, et les buts de Chaumont. En fait, très souvent, il s'agit dans ces zones de très forte concentration de ce qu'on appelle les îlots insalubres. Les îlots insalubres avaient été définis au tout début, à la fin du 19e, au tout début du 20e siècle, et on les avait délimités en étudiant la mortalité tuberculeuse. C'était des îlots où la mortalité tuberculeuse était supérieure à la mortalité moyenne dans Paris. Donc on voit très bien la localisation de ces îlots insalubres, et on voit très bien, depuis le 12e arrondissement jusqu'au 19e arrondissement, ainsi que dans le 4e arrondissement, l'importance de ces îlots insalubres. Les îlots insalubres de la rive gauche sont moins concernés par la déportation. Ces îlots insalubres, on le voit ici, avec, on est là à la jonction du 11e et du 20e arrondissement, du 10e et du 19e arrondissement, et on voit très très bien l'importance de cette persécution. Et dans un de ces îlots, dont nous allons parler très rapidement maintenant, il y a qu'on voit ici, on compare la situation au sortir de la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui, et on va, voilà, on le voit très très bien ici, cet îlot, c'est l'îlot qui, dont la rue principale est la rue Villain. La rue Villain est une rue qui, à l'époque, faisait plus de 240 mètres de long et qui, aujourd'hui, a complètement disparu. Elle est sous le parc de Belleville. C'est-à-dire que ces îlots insalubres ont disparu du fait de la rénovation urbaine. Et on le voit très très bien ici, cet îlot de la rue délimité par la rue Villain et le passage Julien-Lacroix, dans cet îlot, il y a eu plus de 50 déportés, et parmi ces déportés, il y a la mère de Georges Perec. Georges Perec a vécu au numéro 24 jusqu'en 1941, quand sa mère va l'envoyer dans le Vercors. Elle va rester dans l'îlot, elle sera déportée. Et par la suite, quand Georges Perec va savoir que cela va disparaître, voici quelques photos de la rue Villain, qui était une rue que beaucoup de photographes, de cinéastes, Casque d'Or, des scènes de Casque d'Or ont été tournées là, et ça c'est l'escalier terminal de cette rue. Et Georges Perec va remonter très régulièrement en prenant des photos, des notes, et cela va d'ailleurs donner lieu à un très beau film de Robert Baubert, dont sont extraites ces images, qui s'appelle « En remontant la rue Villain », où il reprend des textes de Georges Perec sur cette zone qui va être détruite, voici juste avant la destruction, et Georges Perec prend ici et décrit très précisément le 24 où il habitait avec son père qui est mort. Il avait été engagé volontaire pendant la guerre pour combattre les armées allemandes. Il est mort en juin 1940. Perec va vivre là avec sa mère qui a un salon de coiffure. Et puis, ensuite, il va partir dans le Vercors. Il sera adopté après par la sœur de son père, et il deviendra le grand écrivain que nous connaissons. Et c'est très touchant, je trouve, de voir comment Pérec a travaillé sur la rue Villain, et son grand-père, qui n'habitait pas dans le même îlot, qui était un îlot qui était juste en dessous, a aussi été déporté, ainsi que sa tante. L'histoire de Raoul Ciesnik. Nous avons parlé tout à l'heure du convoi numéro 1, et le père de Raoul Ciesnik a été déporté dans ce convoi numéro 1 et n'est jamais revenu des camps de la mort. Ils avaient été arrêtés le 7 décembre 1941, mais Raoul Ciesnik ne va être déporté que le 21 septembre 1942 avec le convoi numéro 35. Entre-temps, il est passé au camp de Compiègne, Royallieu, puis il est passé à Drancy, puis il a été déporté depuis Pithiviers vers Auschwitz. Cela dit, il ne va pas arriver à Auschwitz parce que les Allemands, considérant que c'est quelqu'un de très solide, qui peut travailler, ils vont le faire descendre dans des camps de travail qui produisent, par exemple, de l'essence synthétique, comme à Blechhammer. Et Raoul Ciesnik va rester dans ce camp de Blechhammer du mois de septembre 1942 au mois de janvier 1945. À cette date, l'armée rouge avançant vers l'Allemagne, le camp va être évacué et Raoul Ciesnik, qui, je le rappelle, est parti quand il avait 16 ans, c'est encore un jeune homme, un tout jeune homme, et il va participer aux marches de la mort en direction de Grossrosen. Après le camp de Grossrosen, les Allemands qui reculent toujours devant l'armée rouge vont ramener un certain nombre de prisonniers vers le camp de Buchenwald, et après Buchenwald, Raoul Ciesnik va également être ramené au camp de Dachau. Il explique d'ailleurs très clairement qu'il n'est pas rentré dans le camp de Dachau parce qu'il s'était blessé en descendant du wagon, et le lendemain, il va être libéré par les troupes américaines, et ensuite, il va revenir à Paris au mois de juin 1945. Hein, il avait été arrêté en décembre 1941, il revient à Paris en juin 1945, et il ne pèse plus, à l'époque, lui qui était un garçon très solide, il ne pèse plus que une quarantaine de kilos, et il explique d'ailleurs dans le témoignage qu'il a livré qu'il a mangé de façon un petit peu trop goulue, disons, et que cela aurait pu être particulièrement dangereux pour sa santé. Pour arriver à ce type de carte, il y a tout un travail sur les adresses, puis de géocodage de ces adresses, puis ces adresses, il y a 12 000 adresses qui sont géocodées sur Paris pour arriver aux cartes qui ont été présentées, et ensuite on va recompter automatiquement îlot par îlot le nombre de déportés, et c'est ainsi qu'on peut arriver à la carte des densités. Et avec des couches successives, on va pouvoir, c'est ce que l'on voit sur cette carte-ci, on va pouvoir reporter, par exemple, le parc de Belleville, qui n'est inauguré qu'en décembre 1988. Mais parce qu'il y a projection dans les mêmes systèmes cartographiques, etc. Passons sur les détails techniques. L'historien va pouvoir disposer d'outils qui permettent, par l'espace, de véritablement comprendre le déroulement de l'histoire. C'est ce que l'on appelle parfois « spatial humanities » en anglais. C'est parfois aussi ce que l'on appelle le « spatial turn », c'est-à-dire comment le tournant spatial va permettre, en localisant l'histoire, véritablement d'avoir des outils qui permettent de raconter l'histoire différemment et très souvent de s'adresser en utilisant la carte, en utilisant la visualisation, de s'adresser à des publics qui ne sont pas forcément des publics d'érudits, mais qui vont beaucoup mieux saisir l'intensité des phénomènes qui sont évoqués. En conclusion, pour travailler sur ces données rassemblées par Serge Klarsfeld, dont j'ai simplement géolocalisé les résultats de Serge Klarsfeld, et cela est un gros travail parce que il fallait vérifier toute une série d'éléments, à la fois au niveau des communes, à la fois aussi au niveau des adresses. Alors, bien évidemment, l'ordinateur permet d'aller assez vite, mais il y avait quand même 78 000 lignes qui correspondaient à des individus et auxquels il fallait ajouter des coordonnées géographiques permettant de les traiter. Donc c'est un travail très très long, plutôt je dirais pour j'avais d'abord travaillé avec Serge Klarsfeld pour les enfants, 11 400 enfants. Pour les adultes que j'ai fait tout seul, je dirais que le codage, vérification du codage, etc., c'est à peu près 8 mois à temps plein. Mais après, on va avoir des résultats. Et la carte n'est pas uniquement un résultat, c'est un début de questionnement. Par exemple, en voyant la carte des exactions en Dordogne et la carte de la déportation en Dordogne, j'ai été surpris par un certain nombre de communes toutes petites où il y avait énormément de déportés et de personnes massacrées, comme dans la commune de la Bachellerie. Et du coup, j'ai travaillé et ça m'a ramené à des études que j'avais faites auparavant sur les Strasbourgeois, parce qu'il y avait parmi les victimes énormément de Strasbourgeois. Et les Strasbourgeois avaient été évacués en Dordogne et beaucoup étaient à la Bachellerie. Et dans ce tout petit village de 700 personnes, il y a eu au mois de mars 1944 une dizaine de personnes qui ont été fusillées et plus d'une trentaine qui ont été déportées, un tiers de ces victimes étant nées à Strasbourg. Donc ça posait toute une série de questions, ça m'a aidé à comprendre, et donc là le sensible était véritablement déclenché par la carte. Et par la suite, je me suis rendu compte qu'un écrivain, un romancier, Jean-Marc Parisi, qui passait ses vacances à la Bachellerie quand il avait une dizaine d'années, était tombé sur la photo des enfants Schenkel, 5 enfants déportés, massacrés à Auschwitz et tous nés à Strasbourg. Et lui, à partir de cette photo, a raconté l'histoire de la Bachellerie. Mais je l'ai découvert que tardivement. Et donc moi, je m'étais posé à partir d'une irrégularité dans la carte. Je ne comprenais pas pourquoi un si petit village avait été si martyrisé. Et par une autre démarche littéraire, il arrivait exactement au même point. Et je crois que cela est une belle illustration de ce que l'on conçoit mal. Très souvent, on dit les humanités numériques, ou la carte, c'est quelque chose de froid, c'est quelque chose qui ne permet pas d'avancer. Et là, au contraire, je pense que on voit que les humanités numériques, ou les spatial humanities, comme j'ai dit tout à l'heure, et l'imagination et la création littéraire peuvent aller de pair.